En attendant, nous commençons et j'ai le grand plaisir de pouvoir accueillir, mais ce n'est pas vraiment un accueillir parce que Brian Stock est chez soi. Brian Stock, qui a été titulaire de la chaire internationale au Collège de France il y a 10 ans et qui reste un ami fidèle avec lui et Alain Berthos. Encore très récemment, nous avons organisé ce colloque sur la pluralité interprétative qui est devenu un beau volume. Et donc, si Madame Vivarelli ne sera pas là, ce que je ne souhaite pas du tout, nous serons obligés d'improviser sur un thème que Madame Vivarelli traite infiniment mieux que nous, c'est-à-dire c'est la lecture que Hans Bloch fait dans son Principe Espérance, voilà les 3 volumes, la lecture qu'il fait de l'héritage de Dante. Ceci dit, j'espère encore vivement que Madame Vivarelli sera là. Je l'ai vu hier, tout était préparé, le texte écrit, il y a l'exemplier que vous avez sous vos yeux. Donc nous commençons, je ne présente pas Madame Vivarelli parce que j'espère qu'elle sera là. Mais je dis en tout cas les éléments que je voulais proposer comme préambule pour ce séminaire. Permettez-moi donc de m'asseoir et je viens aux éléments qui étaient prévus pour introduire à cet auteur, Hans Bloch, qui n'est pas le bloc historien, mais le bloc philosophe. Vous savez que ce séminaire est consacré à 3 volets, donc les paradis intellectuels, les paradis mystiques, les paradis artificiels. Évidemment, le nombre de séances est insuffisant, et je pense du reste peut-être ajouter encore une séance, du fait que très vraisemblablement, notre collègue Jean Delumeau accepte de donner le séminaire de clôture, ce qui me réjouit infiniment. Et donc, peut-être nous allons ajouter une séance. Pour la partie concernant Dante, nous aurons 2 séances. La partie qui précède la réflexion de Dante a été traitée jeudi passé par Madame Victoria Sirlot. Vous avez vu et écouté sa lecture de Hildegard de Bingen. Et aujourd'hui, nous avons le devoir d'aborder les chants que Dante consacre dans le paradis à l'examen qu'il subit, pour ainsi dire, autour de la foi, de l'espérance et de la charité, donc à partir du chant 24 du paradis. Mais comme l'ambition de ce séminaire est de nous présenter un Dante présent à notre temps, on le fait par le biais d'Hans Bloch, qui cite souvent Dante dans ses 3 volumes du Principe Espérance. Puis nous aurons 2 séances consacrées à l'imaginaire qui nous a été transmis par la peinture de la Renaissance et de l'âge baroque. Et je remercie très vivement Madame Biat qui est là et qui nous donnera, j'en ai déjà le sentiment, un magnifique séminaire sur le paradis en peinture à la Renaissance. Et Victor Stoikita fera la même chose pour la peinture mystique à l'âge baroque. Il a écrit un livre sur ce thème. Et enfin, nous aurons donc Jean Delumeau qui fera le bilan, et je verrai s'il faut ajouter encore un séminaire après, évidemment, le séminaire de Marielle Massé sur les paradis artificiels chez Baudelaire. Voilà donc le cadre de notre séminaire. Je viens alors au thème espérance. On pourrait penser d'une manière tout à fait légitime que si Dante arrive au sommet du paradis, l'espérance ne devrait pas avoir lieu, puisqu'il a accompli son voyage et presque accompli sa vision. Mais, comme je l'ai dit hier, à propos de Fui et Vidi, au passé, le Dante qui écrit, le Dante auteur qui écrit, n'est plus le Dante personnage qui a fait le voyage. Et ce Dante personnage est soumis à toutes les conditions qui sont demandées pour avoir le salut, et notamment, non seulement être intégré dans la plénitude des vertus, des quatre vertus et quatre étoiles qu'il connaît au purgatoire, donc les quatre vertus cardinales, prudence, justice, tempérance, mais aussi les trois vertus théologales, c'est-à-dire celles qui concernent non seulement la redintegratio hominis, mais et qui sont assurées par le, au long du chemin par la présence de Virgile et l'arrivée, la manifestation de Béatrice, mais surtout les trois vertus qui concernent l'identité chrétienne et la nécessité d'être nourri par ces vertus pour être admis au paradis. Il est donc légitime, au point de vue de Dante personnage, d'être soumis à cet examen. Et je me permets de dire que des trois vertus théologales, nous aurons peut-être maintenant un peu plus de temps pour développer ce thème en attendant Madame Vivarelli, mais l'espérance joue un rôle essentiel dans la Divine Comédie, dans ces trois chants. Théoriquement, les trois vertus devraient être au plan identique. La foi a même eu un développement inattendu à la Réforme. Vous savez qu'on peut être sauvé sola fides, par la foi seule. Ce que Dante présente d'une manière homogène et équilibrée, foi, espérance, charité, dans les siècles suivants, se modifie, et il y a par exemple tout un pan de la Réforme qui mise sur la foi. La charité, oui, est un résultat, mais on ne pourrait pas l'appliquer si on n'était déjà pas dans le bon sillon de la foi. Donc il y aurait une priorité nécessaire de la foi. Mais, disons, la tradition chrétienne dans son ensemble, dans les deux millénaires de sa tradition, connaît aussi d'autres possibilités. On pourrait dire, grosso modo, et avec évidemment beaucoup d'approximations et l'absence encore d'une historiographie suffisante sur ce thème, que l'un des effets, en tout cas, je ne sais pas s'il était souhaité ou pas, mais en tout cas, l'un des effets du Concile Vatican II a été, et puis Brian peut me corriger, a été certainement du côté de la charité, c'est-à-dire cette espèce de coopération des hommes, ce service au monde assuré par l'Église, cette volonté de donation, etc. Mais il est certain, et nous le lirons à l'instant, qu'à l'époque de Dante, l'espérance avait, d'une manière publique et personnelle, pardonnez-moi un instant.
Je n'ai aucune nouvelle. Elle est partie de son hôtel, et l'hôtel est à côté rue Cujas. Et elle aurait eu, depuis le temps que j'ai téléphoné, le temps de faire des allers-retours. Donc je suis inquiète, elle est peut-être tombée dans la rue entre les deux. Vous l'avez vu hier soir, monsieur.
Oui, bien sûr.
Donc elle est bien à Paris.
On était d'accord.
Donc tout le monde à l'accueil et sur le qui-vive. Et est-ce que vous avez un téléphone de portable, peut-être?
Non, moi-même, je ne connais pas ça.
Donc, c'est à c'est la première fois que ce genre de choses nous arrive.
Ah oui.
Je crois qu'il faut, faire prendre tous les renseignements dans les hôpitaux à côté.
Oui, les autorités peut-être aussi. Peut-être informer les autorités aussi. La police. Oui, parce que c'est pas du tout. C'est bizarre quand même. Oui, bon. Oui.
Donc, je suis désolé, j'espère qu'il n'y a pas eu d'accident.
Ah, mais j'espère. Aussi, c'est doux. Oui.
C'est à titre d'espérance que nous continuons ce séminaire.
Oui.
Alors, je disais, au temps de Dante, ce principe espérance... Mais moi, j'ai toujours l'espérance que cette dame arrive. Je ne voudrais pas... Et puis, surtout, maintenant, c'est déjà 10h15, vous risquez d'avoir un temps plus court. Je suis très reconnaissant pour votre, votre générosité, mais ça risque de sacrifier votre exposé. Et je ne voudrais pas, non. Non, je l'espère, mais bon, je suis très inquiet. Pardon? Non, 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 parce qu'on s'est vu hier soir, on a tout mis au point. Rendez-vous à 9h30. Non, non, c'est tout à côté, c'est ici à côté. Non, 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 il n'y a pas de métro. Non, non. Eh bien, donc, nous continuons et je viens au passage qui nous concerne. Il y avait eu, dans la période où le christianisme était en développement et que l'Église n'était pas constituée comme une force localisée dans l'espace, même des formules qui prévoyaient un baptême d'espérance. C'est-à-dire que... comme on le voit du reste dans la Divine Comédie de Dante, même au dernier moment, on peut être sauvé par ce geste d'espérance qui dépasse, je dirais, la reconnaissance même qui serait faite par le sacrement du baptême. Donc, dans l'ensemble de l'histoire du christianisme, à des époques différentes, il y a eu l'accent, il y a eu un accent spécifique posé sur la foi ou sur l'espérance ou sur la charité. Dante est un homme d'espérance. Il suffirait du reste de lire ses épîtres pour voir combien il nourrit et comment il nourrit l'espérance que le royaume de l'empereur, c'est-à-dire que le pouvoir temporel de l'empereur soit rétabli en Italie et en Europe, et de sorte que le deux soleils puisse avoir la fonction qui leur a été qui était prévue, qui a été donnée par la Providence afin qu'il y ait un juste équilibre entre le temporel et le spirituel. C'est un homme d'espérance parce que longtemps, il espère, il souhaite rentrer à Florence et encore dans le paradis, sauf au moment où finalement il est obligé de constater par la prophétie post factum de Cacciaguida, son ancêtre, qu'il ne pourra jamais plus rentrer à Florence, eh bien, il est obligé de reconnaître qu'il sera à jamais exclu du bel Battisteo et que donc là, le chemin se termine. Néanmoins, l'ancêtre lui dit « fa parte per te stesso », c'est-à-dire « tu continueras tout seul ton chemin ».
Excusez-moi. On me demande si, quand vous l'avez vu hier, c'était ici au collège ou en dehors.
Oui, oui,
donc elle ne peut pas se tromper d'établissement.
Non, non, non.
Elle n'est pas allée chercher à la Sorbonne.
Non.
Elle connaissait le Collège de France.
Oui, oui.
Ça devient encore plus mystérieux.
Oui, oui.
C'est une. On devrait avoir Umberto Eco ici pour. Voilà, c'est drôle quand même qu'elle est.
Oui. Alors nous venons, après ce préambule, aux deux passages que je voulais vous soumettre concernant le rôle de l'espérance dans la. Et là, au point de vue de l'histoire de la pensée théologique, Brian Stowe va m'aider. C'est le chant 24 du paradis au vers 64-66. C'est vraiment le centre même de la pensée théologique de Dante. Fede è sostanza di cose sperate e argomento delle non parventi, e questa pare a me sua quiditate. Foi è substance de choses espérées et argument des invisibles. Telle me paraît être sa quiddité. Alors, il faut évidemment expliquer mot à mot ce passage essentiel. Foi est substance de choses espérées. Prenons ce vers seulement. On ne peut pas avoir une substance s'il n'y a pas la forme qui reçoit et qui modèle cette substance. Donc, il faut qu'il y ait des choses espérées dont la foi devient la substance. S'il n'y a pas de l'espérance, la foi n'a pas de substance, voyez, me semble-t-il. Et la foi est argument des choses non parventi, invisibles. On ne peut pas, évidemment, donner la preuve de ce qui est invisible, et la foi assure, mise sur cet invisible. Se fait argument et preuve de ce qui est invisible, dont on ne peut pas donner une preuve physique. Dans l'histoire de la tradition chrétienne, on a misé sur ce deuxième aspect. Dans la Vulgate, on dit que la foi, non seulement chrétienne, mais la foi, par exemple, un ami lointain vous promet de venir, vous lui faites évidemment confiance et vous avez la certitude, mais une certitude qui vient d'une preuve intérieure. Puisqu'il a un ami, il viendra. Mais vous n'avez aucune certitude. C'est un élément donc de l'ordre de ce deuxième vers. Et on n'a pas suffisamment insisté sur la réciprocité de foi comme substance de choses espérées. La réciprocité essentielle qu'il y a entre foi et espérance. Et ceci est très évangélique. Quand vous prenez les textes des évangiles, quand vous voyez la fin des péricopes, la fin des paraboles, « Va, ta foi t'a sauvé », en quoi consiste cette foi? Ben, normalement, dans un espoir, dans une espérance. C'est toujours des veuves, des femmes, des fonctionnaires qui demandent au Christ de sauver, de guérir, de pallier la souffrance d'une fille, d'une fillette, d'un conjoint, etc. Et le Christ ne fait pas le miracle pour demander après l'attestation. Ça, c'est quelque chose de très matériel. Il dit, ben, va, rentre chez toi, ta foi t'a sauvé. Et c'est sur l'espérance que le miracle se fait, très constamment dans les évangiles. Et en plus, cette espérance, et puis je cède la parole à Brian Stock, à mon sens, est absolument dans l'économie, il faut la lire, dans l'économie du troisième temps, sub lege, sub gratia, c'est-à-dire la présence du Christ, et Après, sub ampliori gratia. Je pars, mais un autre viendra à ma place, l'Esprit Saint. C'est la période donc des que Augustin et tous les prophètes, le joachimisme également, présentent comme la période encore plus riche, à condition que on croit à cette espèce de grand développement qui est donné par la Pentecôte. Voilà donc quelle est, à mon sens au moins, le sens de ce premier vers. Dante aurait très bien pu, en changeant tout simplement les paroles, les rimes du tercet, mettre avant la foi et argument des choses qui n'apparaissent pas, des invisibles. C'est notre lecture habituelle. Non, il a voulu tout d'abord marquer le fait que la foi est une substance, mais une substance qui se réfère à l'espérance. La foi est la substance même de l'espérance, donne substance à notre espérance. Donc, voilà ce que je pense être un peu le sens de ces trois vers. Mais avant de passer au suivant, je donne la parole à Brian Stoff en le remerciant vivement de s'associer à cette suppléance que nous faisons d'une manière un peu indigne par rapport à la conférence qui était prévue.
Oui, je devrais m'excuser, non seulement que je suis un peu enrhumé, mais je ne peux pas remplacer Madame Vivarelli, qui aurait parlé certainement de Bloch avec beaucoup plus de compétences que moi. J'avais des étudiants dans le passé qui ont travaillé sur Bloch, mais en effet, ce matin, je n'étais pas du tout préparé en venant au Collège de France de vous présenter la philosophie de Bloch. Mais d'Augustin et ses problèmes d'espérance dans Dante et leur arrière-pays, je pourrais peut-être vous faire revenir un petit peu aux sources de ces idées, un petit peu, où sont, à part évidemment l'Évangile, où est-ce qu'on peut trouver dans le passé les débuts de la pensée qu'on voit fructifier dans Dante. Et en effet, ce que je voudrais faire simplement dans 2-3 minutes, c'est de présenter quelques idées qui pourront vous aider à comprendre le parcours de Dante dans ces vers de la Comédie, où en effet, dans une forme très concentrée, si j'ose le dire, il nous ramène d'une part à Saint Paul, n'est-ce pas, à cette notion de visible, invisible, substance, non-substance, et aussi il nous conduit à des idées qui sont chères à lui, pour la prophétie par exemple, et toutes sortes d'avenir dont avait souligné M. Orsola, il a des idées très précises à lui. Il faut dire que c'est dans Bloch, je crois, que cette notion d'espérance a fait une sorte de début dans la philosophie moderne. Je crois que depuis Descartes, nous n'avons pas eu beaucoup de philosophes, de ma connaissance, à part les philosophes chrétiens, commentaires de la Bible. En fait, en philosophe pur, il y a très peu de philosophes qui ont commenté la notion d'espérance. Et Bloch, je crois, en prenant, pour ses trois grands volumes, cet chef-d'œuvre sur le sujet, avait certainement dans sa pensée les notions utopiques des marxistes, des autres penseurs du 19e siècle, qui avaient mis l'espérance dans un contexte purement matériel et politique, c'est-à-dire qu'ils voulaient nous ramener à ces sources, en fait, c'est l'idée philosophique de l'espérance. Et c'est là où je voudrais, dire quelque chose sur le passé, des idées de Dante. On peut, en fait, discerner deux grandes lignes. Si on prend comme base, disons, la période entre Saint Paul et Saint Augustin, qui est à trois grands siècles de la patristique et aussi de la fin de la philosophie antique, deux grandes lignes dans cette histoire. D'abord, il y a la ligne néoplatonicienne, qui la fleur suit dominante sur ces questions de volonté, espérance, charité, etc. dans l'Antiquité, parce que les stoïciens avaient d'autres pensées plutôt matérielles sur ces questions, et auxquelles je vais revenir. Et l'autre, en fait, c'est les commentaires, surtout sur saint Paul, mais aussi sur les textes de l'Évangile où il est question de l'avenir, c'est-à-dire quelle est notre pensée pour l'avenir en tant que chrétien. Alors là-dedans, l'espérance vient tout de suite parce que espérance et volonté et avenir sont liés dans beaucoup de textes de la Bible et des Pères, comme Grégoire de Nice, par exemple, ou Jean Chrysostome. Alors, ces deux grandes lignes sont quand même, très différentes dans leur base, parce que pour les néoplatoniciens, l'espoir est pour nos jours. C'est-à-dire que nous espérons d'être mieux, de pratiquer mieux les vertus, et à la fin de notre vie, si en fait on y arrive, d'être une sorte de divination. N'est-ce pas? C'est-à-dire que l'idée de Plotin, surtout, et aussi d'autres penseurs néoplatoniciens, était que nous, en nous-mêmes, on a la possibilité, et c'est Porphyre qui le dit directement, on a la possibilité d'être presque parfait. Nous pouvons réaliser nos espérances. Alors, ce n'est pas sur le plan matériel ni politique, c'est en nous, psychologiquement. Nous pouvons nous changer. C'est l'ancienne question posée par Platon. Est-ce qu'on peut enseigner les vertus? Et la réponse du néoplatonicien est oui, dans un certain sens, avec certainement ces exercices mentaux et spirituels dont a beaucoup parlé Pierre Hadot dans cette institution, dans sa période d'enseignement. Tandis que pour les chrétiens, ce n'est pas du tout le cas. Nous pouvons espérer d'une meilleure vie, nous pouvons espérer de changer notre vie, de faire du progrès, d'être mieux, de pratiquer les vertus, parce que pour les chrétiens, les vertus étaient aussi importantes, vertus séculaires et chrétiens, mais nous ne pouvons pas espérer d'être des personnes parfaites dans notre vie. L'espoir a des limites pour les penseurs chrétiens, ils sont tous d'accord sur ce principe, et c'est dans Saint-Augustin qu'on voit les premiers pas vers ce qu'on retrouve dans Dante plus tard, c'est-à-dire ce lien entre espérance et prophétie et vertu chrétien. Et je voudrais simplement, dans deux minutes, je ne veux pas insister parce que ce n'est pas un séminaire sur Saint-Augustin, simplement vous dire deux ou trois choses sur l'évolution de la pensée de Saint-Augustin, dans ce sens qui est capital pour Dante et tous les penseurs du Moyen-Âge, comme saint Thomas, dans lequel on trouve des traces, notamment dans cette notion de quidité de Dante. C'est-à-dire que pour Augustin, il y a un autre principe qui est très important dans tout ça, dont on ne parle pas beaucoup dans l'Évangile, c'est la volonté. C'est la volonté. Qu'est-ce que c'est la volonté? C'est une sorte d'intentionnalité de l'esprit vers l'avenir, donc lié en quelque sorte à l'espérance, n'est-ce pas? On ne peut pas complètement séparer nos volontés de nos espérances. Et pour Augustin, le problème devient quel est le rôle de la volonté dans l'avenir de la grâce? Et si la grâce est en fait la fin de toute cette évolution, quel est le rôle de la volonté? Et en présentant le problème de cette façon, Augustin a repris une thèse stoïcienne. Voilà, c'est pas très connu par les augustiniens, mais en fait, je vous l'ai dit, excepté parfois, pas la foi, ce que je dis, les stoïciens avaient déjà une notion en grec pour hérésis. C'était la discipline en vous-même pour progresser. Ce n'était pas comme les disciplines des néoplatoniciens, c'est plutôt une chose mystique, mais en fait, c'était vous tous les jours de vous répéter
ce qu'il faut faire de ce jour-là. Par exemple, moi aujourd'hui, je vais être une meilleure personne et je dis ça toute la journée. Une sorte de port hérésie de diriger l'esprit vers l'avenir. Alors, Augustin, étant visité certains textes stoïciens et néoplatoniciens, invente pour nous en Occident une nouvelle notion de volonté qui va faire son histoire dans le Moyen-Âge et qui certainement dans Dante, lié à cette grande notion d'espérance et aussi de prophétie dans ce sens. Et alors, pour résumer, je dirais simplement que pour Dante, si pour Dante, ce que professeur Ossola appelle ce grand voyage dans le paradis, ce grand voyage qui termine dans un sens prophétiquement, à une sorte de contexte plus grand que l'individu. C'est plus grand, c'est toute notre société, dans le démonarchie, par exemple. Augustin se limite de plus en plus à la psychologie humaine. Et ces dernières questions, dans ses derniers écrits sur le sujet, sont certainement sur la grâce et vous, en tant qu'individu. Et son voyage, si le voyage de Dante, dans ce sens, est un voyage, comme avait souligné professeur Ossola, non seulement au nom de lui-même, mais aussi de l'auteur et la personne dans la comédie, Augustin, en prenant l'Évangile pour son modèle, ne sépare jamais complètement sa vie personnelle du contexte littéraire et rhétorique de, par exemple, les Confessions. Il y a une différence nette. Alors, la volonté pour Augustin est toujours ramenée à une sorte de contexte personnel. Tandis que pour Dante, le contexte est bien plus grand, c'est non seulement la personne, mais aussi, comme vous le voyez dans la comédie, d'autres personnes qui ont réussi ou non réussi à faire leur destin correctement. Alors, je vous dis m'arrêter là, il y aura certainement des questions qui vont venir dans la discussion. Et je ne veux pas faire de séminaire sur Saint-Augustin, comme je l'ai dit, mais pour ramener ça à Dante, je dirais seulement une chose de plus, c'est le mot Aristote. C'est le mot Aristote parce que dans la comédie, comme dans le Convivio, en fait, où Dante s'explique un peu mieux sur certaines questions, l'éthique d'espérance, est lié beaucoup aux idées d'Aristote, et d'Aristote interprété naturellement par saint Thomas et par d'autres auteurs du Moyen-Âge, et mis dans un contexte chrétien, sûrement, mais on peut quand même voir l'éthique d'Aristote derrière certaines idées de Dante sur cette notion d'espérance. Voilà, alors je termine là. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons travaillé ensemble depuis des années sur certaines de ces questions, alors c'est très imprévu, je n'avais pas l'intention de faire une conférence ce matin. Je laisse la parole à mon collègue pour continuer la discussion.
Je te remercie vivement. Et je suis surtout reconnaissant du fait que Brian Stock a introduit le concept de voluntas, de volonté. En effet, vous voyez que dès le premier vers du paradis jusqu'au dernier, le verbe qui est introduit par Dante est movere, hein, la mise en mouvement. Alors, de la part de Dieu, ça dépend d'une surabondance de son amour et de sa grâce qui met en mouvement, d'une manière très aristotélicienne, le soleil et les autres étoiles, comme Dante le dit. Mais du côté humain, évidemment, cette voluntas, à son tour, doit s'exprimer par un geste de choix, hein, par un geste de choix, et donc le voilà. Bon, Madame, vous voyez que le principe expérience a fonctionné, et donc Madame est arrivée.
Je sors de la place. Oui. Bonjour Madame, c'est Brian Stock, contente. Ah, voilà. Vous cède la place et je donne le bon microphone parce que.
Non, je termine
vous en
tout simplement
besoin.
Ce point
vous
pour
vous
donner
vous
après
là,
la parole à Madame Ivarelli. Et ce principe de qui lie la volonté du côté humain à la nécessité de choisir, exercer donc par la volonté le libre arbitre, se manifeste dans l'économie de la Divine Comédie tout entière. Nous avons lu il y a 2 ans les passages du commencement de l'enfer où les ignavi, c'est-à-dire ceux qui ont refusé de faire leur choix d'exercer le libre arbitre, sont exclus de l'économie même de la damnation. Ils ne sont même pas dignes d'être damnés. Et donc, ce principe espérance s'exerce, comme Brian Stork l'a dit, d'une manière très précise, grâce au principe qui précède cela ou qui implique cela, c'est-à-dire la voluntas. Donc, il y a le libre arbitre, mais nous pouvons l'exercer qu'en faisant des choix, et ces choix sont faits sur quelle base? C'est toujours le principe de l'an de Buridan. S'il n'y a pas un mouvement volontaire, ben on resterait face à deux quantités de blé égales, on ne choisirait jamais et donc on serait destiné à mourir de faim. Libre arbitre qu'il faut exercer par la volonté, et cette volonté est à la base également d'une espérance. On ne fait pas une action pour obtenir aucun résultat. On ne fait pas une action pour condamner nous-mêmes à la défaite. Donc, on exerce le libre arbitre grâce à la volonté sur la base d'une espérance. Donc, le système que Brian Stork a évoqué est parfaitement cohérent à la pensée de Dante. Et je viens rapidement donc introduire Madame Vivarelli en vous lisant encore le passage suivant de la Divine Comédie qui se réfère à ce principe espérance et qui est le suivant au chant consacré à l'examen sur l'espérance, c'est-à-dire Paradis 25. Et prima, appresso il fin d'este parole, speret in te di sopra noi sudì, a che risposer tutte le carole, en rime avec parole. Donc, et d'abord, après la fin de ces paroles, on entendit sperant in te, au-dessus de nous, et toutes les caroles lui répondirent, puis parmi elles, une lumière s'éclaira, tant que si le cancer avait un tel cristal, l'hiver aurait un mois fait d'un seul jour. C'est-à-dire que si le cancer qui apparaît en hiver était si transparent comme la lumière qui apparaît, la lumière d'un bienheureux qui apparaît, tout l'hiver ne serait qu'un seul jour. Donc ce « sperant in te », encore chanté par les bienheureux, même s'ils n'ont plus nécessité d'espérer, mais c'est fait par la surabondance de la charité pour l'Église militante qui est encore sur terre. Bon, je termine sur ce point pour vous dire comment ce principe est essentiel chez Dante et je viens tout simplement à présenter Madame Vivarelli qui enseigne la littérature, professeure titulaire de littérature allemande à l'Université de Florence et elle est l'élève de Mazzino Montanari qui a assuré l'édition critique des œuvres de Nietzsche. Donc cette tradition de maître à élève de Mazzino Montanari à Vivetta Vivarelli se continue puisqu'elle a publié plusieurs livres sur l'œuvre de Nietzsche aussi bien en Allemagne qu'en Italie et encore très récemment le 5e volume des lettres de la correspondance de Nietzsche. Mais il n'y a pas seulement ce foyer consacré à l'œuvre de Nietzsche, mais par exemple une attention très aiguë à ce qu'on appelle aujourd'hui la réception de Nietzsche dans la poésie contemporaine, notamment je vous cite quelques exemples, dans la tradition de Lichtenberg et Nietzsche-Lichtenberg, ou bien l'incipit de Patmos dans les versions de Jean Jouve Errante traverso Vigolo, donc tout un travail de traduction, et plus récemment, un thème extrêmement épineux, Nietzsche et les Hébreux, Nietzsche et les Juifs, une anthologie de textes, ou encore la traduction et le commentaire de la naissance de la tragédie de Nietzsche également, et le rapport, ça c'est un élément très important pour la tradition littéraire de l'époque moderne, publié à Wurzburg en 1998, Nietzsche und die Masken des freien Geistes, Montaigne, Pascal und Stern. Vous voyez donc qu'il y a vision large de la philosophie et de la littérature européenne, de Pascal à Nietzsche. Cela suppose aussi tout le contexte et le contraste entre une théologie négative, le néant, et d'autre part une théologie positive qu'elle a abordée dans plusieurs de ses travaux. Je suis donc heureux de lui donner la parole sur ce point, comme vous l'avez déjà vu d'une manière un peu improvisée, si essentielle, c'est-à-dire du rapport ou de la présence de Dante dans ces trois volumes très importants pour notre époque contemporaine, le principe Espérance. Je vous le montre encore une fois. Dance Block sont traduits dans la collection Gallimard. Voilà, je vous donne
merci. Le microphone, c'est. Oui. Je suis très obligée à professeur Sola qui a bien voulu m'inviter ici. Je suis honorée de pouvoir parler devant ce public et dans une institution si prestigieuse. L'acqua che io prendo jamais non si corse. On n'a jamais couru sur l'onde où je m'engage. Ce vers du paradis de Dante est cité à deux reprises dans son chapitre du principe Espérance de Bloch, consacré à l'élan de la jeunesse, à la découverte du non encore conscient, à l'aube vers l'avant, à l'enthousiasme révolutionnaire de la grande poésie classique et romantique allemande. Ce même chapitre renferme aussi la devise Incipit Vita Nova et la référence aux colonnes d'Hercule. Quelques pages auparavant, Bloch avait mentionné la Divine Comédie comme l'exemple de la jeunesse éternelle des œuvres d'art, liée à un sens qui rayonne loin. L'expression est de Goethe. Les allusions à Dante dans ce chapitre 15 indique la prise de conscience de quelque chose qui n'a jamais été tenté auparavant. Le farewell vers l'inconnu, vers l'inexploré, vers le plus ultra. L'espérance élargie, alors que la crainte, la peur, l'angoisse, même d'après son étymologie, rétrécit. Et l'espérance ressemble à l'arpège ante lucem de l'aube, arpeggio, en italien dans le texte de Bloch. Celui qui est enchaîné, à une étoile, celui qui la fixe des yeux, ne sera-t-on pas, affirme Bloch avec Léonard de Vinci. Si quelqu'un tourne en ronde, il n'y a pas le sens de la limite et donc le besoin de la dépasser. La pensée est pour Bloch dépassement, Überschreitung. Rappelant toutefois que le verbe allemand Überschreiten signifie aussi aller au-delà de la limite, transgresser. Le liste dantesque qui, dans le désir de tenter ce qui n'a jamais été tenté, ressemble à Dante même, est l'une des images pivots du dépassement de la limite. Bloch l'appelle les Faust de la mer. Il est lié ainsi dans ce Streben au chef-d'œuvre de Goethe qui, dans toute la tradition littéraire et philosophique allemande, est toujours associé ou opposé à la Divine Comédie. Mais Dante, avec son paradis représente aussi l'une des plus hautes réalisations de l'esprit de l'utopie, la suspension mystique du temple. En tant que tel, il s'agit de l'un des aspects constitutifs de l'art compris à paraître. Destination qui porte en soi l'odyssée du voyage, monde qui devient tief und vollkommen, c'est-à-dire profond et parfait. Chez Dante semble donc s'unir les deux caractères opposés de l'art. Le caractère expérimental, le pas encore, le versuchen, qui contiennent aussi le verbe suchen, c'est-à-dire chercher, le format utopique, l'attention vers l'horizon ouvert du possible, sans lequel la réalité semblerait immobile, mais aussi les dimanches de la vie, la préfiguration de l'assouvissement, la plénitude et l'éternité de l'instant parfait, l'utopie de la quiétude. Je vais parler maintenant de la structure de l'œuvre. Le Principe Espérance, écrit aux États-Unis de 1938 à 1947, achevé et revu dans les deux Allemagne pendant les années 50, et publié ensuite en RFA, s'emporter, comme l'a remarqué Habermas, les traces de ces fréquents changements d'horizon. Aujourd'hui encore, il s'agit d'une œuvre atypique et à certains égards d'un autre âge. Des projets utopiques qui semblent désormais se détacher dans des scènes politiques obsolètes apparaît comme une synthèse du messianisme révolutionnaire et de la pensée des avant-gardes européennes du XXe siècle. La perspective dans laquelle nous considérons aujourd'hui cet essai monumental n'a guère changé par rapport à la fin des années 50. Kant Bloch, marxiste et juif, était défini par Martin Walser en hérétique complète, Ketzer, aussi bien du point de vue de Rome que de celui des deux Allemagnes, aussi bien de celui de Washington que de celui de Moscou. Mais qu'est-ce qu'il continue à attirer et à provoquer dans cette encyclopédie de l'espérance qui est la somme de la pensée philosophique de Bloch? Il s'agit donc d'une construction grandiose qui frappe et qui attire par son style spécifique à mi-chemin entre un style littéraire propre à l'essai et un style philosophique. Mais l'aspect le plus singulier est la correspondance entre les aspects stylistiques et les thèses philosophiques. L'œuvre se présente comme une sorte de gros paradoxe. Il y a un dessin architectonique, mais qui n'est pas poursuivi de façon linéaire et qui se présente par degré d'approximation, comme en lente circonlocution de la destination. Cela s'est produit sous la forme ouverte de l'essai, du style typique de l'essai qui chez Musil, ainsi que chez les philosophes de l'école de Francfort, se propose comme écriture ouverte et expérimentale, vision oblique tendant à ouvrir des brèches et une position aux cages des systèmes philosophiques traditionnels. L'attaque contre le système clos est un héritage de Bacon, exalté aussi dans les Zibaldone de Leopardi. Ce n'est pas un hasard si Adorno, dans Essai als Form, définit la loi qui gouverne intérieurement l'essai, l'hérésie, le défi de l'orthodoxie de la pensée. En ce qui concerne la structure, les principes espérance semblent graviter autour des deux feux. L'un est le voyage organisé par étapes, par stations, l'autre est l'incursion, la battue non planifiée, le vagabondage dans les territoires non philosophiques, même les plus inexplorés de l'espérance. Le premier aspect est lié à la Bildungsreise de l'époque classique et romantique, Homo Erfahrung, qui contient la racine de faire, voyager, voyager en abandonnant la sécurité d'un horizon circonscrit et en s'exposant au risque de l'espace ouvert, à l'aventure dans le sens d'advenir. Des modèles de voyage expérience pèlerinage ou voyage par étapes pourraient être constitués par la phénoménologie de l'esprit de Hegel, dont par ailleurs Bloch critique l'anamnèse, la fermeture en cercle, les Faust de Goethe, mais aussi la Divine Comédie de Dante. Le second aspect est en revanche suggéré par un aphorisme de Lichtenberg utilisé comme excerpt du chapitre 27. La fantaisie, errant sans but, s'abandonnant au hasard d'incursions improvisées, livre souvent à la philosophie plus systématique les gibiers dont elle peut faire usage dans son ménage bien ordonné. Le titre des cinq parties, compte rendu, fondement, transition, construction, identité, indique les modèles conceptuels qui émergent dans les principes espérance. L'identité doit être comprise comme odyssée de la quiétude, à savoir identité de la destination et du voyage, quiétude qui, en termes hegeliens, conserve les contenus utopiques du voyage. Le thème principal est énoncé presque tout de suite et ce sont les rêves d'une vie meilleure, les rêves en avant, les désirs d'un instant parfait, Gelebte Augenblick, dans lequel on pourrait demander à l'instant de s'arrêter. Bloch esquisse une hiérarchie des pulsions et des désirs, dès les plus enfants au plus haut, et pour chacun, il écrit un petit essai. Le plan de l'œuvre et ses prémices théoriques sont illustrées dans la préface, et ils sont ensuite remplis comme avec l'étincelle d'une mosaïque au moyen d'exemples sociologiques, historiques, anthropologiques, littéraires. Ces dernières, même si quelquefois ils semblent échapper aux larges mailles du réseau conceptuel, en réalité redéfinissent la thèse initiale sous d'innombrables perspectives. On peut aisément résumer la pointe de départ dans la phrase « Il s'agit d'apprendre à espérer » et « penser signifie dépasser ». On trouve donc déjà dans la préface la mention des figures fictives d'être transgressant les limites humaines, comme Don Juan, Ulysse et Faust, dont Bloch parlera dans la dernière partie. Mais dans la préface apparaît aussi une image qui illustre bien l'entreprise que l'auteur s'apprête à affronter et à imposer au lecteur. L'image d'une escalade. Les efforts fournis seront récompensés par la lumière en haut et la découverte du panorama pendant la montée. De l'énoncé initial, on passe donc à travers une orbite excentrique ou un parcours oblique à une série de voyages dans les domaines les plus disparates du savoir, qui, comme dans le dilettantisme défendu par Burckhardt, multiplie les perspectives de la psychologie à l'analyse sociale, de l'histoire à la littérature et à l'art, au mythe et à la légende, jusqu'en pitié sous le comportage. La prémisse philosophique et stylistique sur laquelle se fonde toute la construction est expliquée dans un chapitre récapitulatif, chapitre 20, qui définit l'instant obscur par rapport aux mots-clés ouverts et possibles. Ouvert est aussi un terme central dans l'égide de Duino de Rilke, comme déjà chez Hölderlin. Cet ouvert désigne l'espace du rêve et il existe aussi bien chez l'homme que dans les choses. Il se propose comme une série de possibilités pour fuir la réalité et aller vers le possible. Mais voyant la définition de l'instant obscur ou opaque par rapport à cette ouverture de l'existence. L'instant vécu est le plus immédiat et donc le moins expérientiable. Seul l'advenant imminent ou le passé le plus proche sont à la distance nécessaire pour que les rayons de la prise de conscience puissent les éclairer. Ce qu'on est en train de faire, de vivre en ce moment, est la chose la plus immédiate, en tant que telle la moins connaissable. Seulement quand un maintenant vient de se dérouler ou est attendu, il possède la distance dont a besoin les rayons du devenir conscient pour l'éclairer. Dans la préface, la nécessité d'un parcours oblique pour éclairer l'instant obscur, das dunkel des gerade gelebten Augenblicks, est liée à la conscience utopique. On a besoin de la longue vue la plus puissante, c'est de la conscience utopique la plus aiguë, fourbie, pour pénétrer l'obscurité de la proximité la plus proche. L'expérience au comptant, l'instant à peine vécu. Ce parcours oblique qui garantit la distance, contourner les choses pour les centrer, correspond à ce que Bloch, dans une interview avec Jürgen Rühle, considérait comme les principes pivots de sa philosophie. Dans ses essais littéraires, dont toute une session s'intitule « Verfremdungen », Bloch lit l'étonnement philosophique « Staunen, Taumazein » à un artifice déjà étudié par les formalistes russes, auquel son ami Bertolt Brecht donne un nom, Verfremdungseffekt, V-Effekt. Pour échapper à la fermeture de l'existant et apprendre à regarder la réalité avec un regard neuf, Bloch semble s'inspirer des règles élaborées pour le théâtre par Brecht. Selon Francesco Orlando, un premier modèle de cet étonnement critique se trouve déjà dans les lettres persanes de Montesquieu. Paul Valéry entrevoit dans les faux étonnements naïfs des deux orientaux l'intention de révéler toute la relativité d'une civilisation. Par conséquent, la prophétie de la révolution est sans doute même quelque chose de plus de la prophétie. En résumé, nous trouvons une drôle de coïncidence entre le thème du livre, c'est-à-dire les voyages dans le passé et dans l'avenir pour sonder le présent d'une certaine distance, est une écriture étincelante et allusive qui semble faire sans cesse appel à cet étonnement critique, obligeant de la sorte le lecteur à d'incessantes umwege, déviations et changements de perspective à travers la longue vue de la conscience utopique et le fil rouge de l'espérance. Les textes littéraires mentionnés par Bloch dans ses écrits philosophiques se collagent à partir des exergues au début de chaque chapitre, obligeant les lecteurs à les relire et à les réinterpréter dans les nouveaux contextes et n'ayant presque recours au merke de Hebel, c'est-à-dire fait attention, nota bene, sous laquelle Adorno aussi s'était attardé. Fidèle à la prémisse de la pensée comme dépassement, c'est comme si Bloch, dans la forme même, explicitait son intention de faire sortir à découvert ce qui, dans les processus historiques universels, est enfermé, fait pression, tend vers quelque chose. Ce qui est n'est peut-être la vérité, mais vaut à travers l'homme entreprendre la voie du retour chez soi. Il faut donc aller au-delà, dépasser les positifs. L'utopie concrète suppose la recherche d'une Heimat, d'une terre promise possible uniquement après l'Exode. Les éléments tirés de la mystique juive semblent évidents, non seulement dans les perspectives, mais aussi dans les images et les métaphores. Margarete Sussman évoquait, dans un numéro de la revue de Jude consacré à Martin Buber, l'expérience hassidique du monde comme exil de la Shekinah, dont l'étincelle salvatrice reste cachée et assoupi dans toutes les choses du monde en attente d'être réveillé par notre connaissance et nos actions. Margarete Sussman, amie et correspondante de Bloch, met notamment l'accent sur le fait que la mystique hassidique est un mystique de l'espérance. Celle-ci, contrairement à la mystique du souvenir, d'un miracle lointain transféré dans la sphère spirituelle, recherche le miracle d'une rédemption qui doit se produire ici-bas. C'est donc une mystique de l'action. On peut remarquer le paradoxe sur lequel chaque décision de l'individu retombe sur la communauté. Bloch lui-même évoque dans l'esprit de l'utopie un chapitre du Zohar dans lequel on parle de deux mondes parallèles, le monde extérieur des œuvres et le monde intérieur des prières. Ce dernier doit nous permettre d'accompagner le monde extérieur dans l'au-delà. Même dans les chapitres sur les Juifs, supprimés ensuite dans la seconde édition de l'Esprit de l'Utopie, Bloch reconnaît à ses peuples l'élan vers une transformation spirituelle du monde, unie à une finalité messianique dans l'histoire. L'identité même des Juifs est liée au pathos messianique et à la prise de conscience d'une mission, à la fois personnelle et collective. Déjà dans les œuvres antérieures au principe Espérance, on avait pu découvrir des éléments de hassidisme juif et oriental, de la Kabbale gnostique. L'esprit de l'utopie se situe dans la ligne du messianisme actif de Moses Hess, Ernst Toller, Trotsky, Landauer, etc. Bloch avait analysé en particulier l'atteinte eschatologique et les aspects millénaristes dans Thomas Münzer comme théologien de la Révolution. Selon le théologien Moltmann, pour Bloch, la religion n'est pas un mythe statique, apologétique, mais c'est un messianisme humain et eschatologique. C'est la raison pour laquelle il est considéré comme sprengend, c'est-à-dire qui signifie explosif, subversif. Dans ses cours universitaires, Bloch souligne l'importance des courants mystiques comme les courants silésiens, Comenius, Böhme, ou des anciens rêves hérétiques millénaristes, des sectes qui croient dans la réalisation du règne des dieux sur terre. Il mentionne les Hussites et les Anabaptistes. Ce sont des germes qui continuent à agir de façon souterraine dans l'illuminisme allemand, même choquante, et Herder, et qui stimuleront entre autres les premiers enthousiasmes déclenchés par la Révolution. Ces rêves, dans lesquels on perçoit les échos de Joachim de Flore, Gioacchino da Fiore, que Dante met dans son paradis, annoncent, selon Bloch, une anthropologie sociale de la religion dans laquelle le Christ tend à se dissiper dans sa communauté. Dans les principes espérance, nous tombons sur un vaste répertoire d'émotions liées aux choses, aux objets empreintes du souvenir qui rappellent la passion de Benjamin pour les collectionnismes et les objets désuets, même si on trouve déjà l'éloge de la couche abîmée dans l'esprit de l'utopie de 1918. Bloch nous prend par la main pour nous amener dans ce bazar philosophique en se servant aussi du montage d'épaves, Strandgut montage, qui deviennent allégoriques et des miroirs reflétant le passé, à la manière du protagoniste dans La peau de chagrin de Balzac. Vous avez le texte. Bloch cite un morceau tiré de la boutique du marchand de bric-à-brac, où des crocodiles, des singes, des bois empaillés souriant à des vitraux d'église, un souvenir de Venise, est comparé à un désir masqué traduit inameublement. L'objet exotique permet d'accomplir un voyage dans l'espace et le temps. On entre dans une salle d'exposition des souhaits, dans un théâtre des passés et des lointains. Propaio, contrairement à son ami Lukács, a été l'un des premiers philosophes à s'intéresser aux techniques des avant-gardes figuratives et à s'en inspirer. Il attribue au montage, dans Héritage de notre temps, une signification philosophique. Le montage reproduit la rupture d'un ordre hiérarchique et le morcellement du réel en atomes figuratifs. La soi-disant objectivité, unité formelle du réel voudrait par contre imiter une harmonie inexistante. On a presque l'impression de lire les analyses de la décadence chez Paul Bourget. Si l'histoire de l'humanité se présente aux yeux du philosophe comme un immense laboratoire expérimental, caractérisé par d'anciens poussées en avant et des échecs, il faut monter et reconstruire l'image de l'espérance au moyen d'une myriade de fragments ouverts vers l'avenir. Ces aspects stylistiques accompagnent la critique contre le positivisme qu'on trouve par exemple dans le chapitre 17. La recherche du novum, de l'effervescence, de l'horizon ouvert et du règne de la possibilité, par définition, s'oppose aux constructions statiques qui ont comme modèle les cercles et qui s'y fondent sur la répétition et les retours, comme cela arrive chez les stoïciens, mais aussi chez Hegel et dans toute la philosophie judéo-chrétienne. Judéo-chrétien, mais elle s'oppose surtout au positivisme étranger au procès de la seconde moitié du XIXe siècle. Ce concept des réalités figées qui pénètre aussi dans le marxisme, qui trouve son pendant dans l'idéalisme et un monde aussi, et un monde idéal fait de pure apparence. Dans cette perspective, il est nécessaire de faire en sorte que l'avenir n'arrive pas comme destin, de repousser l'amor fati de Nietzsche, en réalité chez Nietzsche dirigé contre le ressentiment, mais que Bloch perçoit comme acceptation servile de l'existant, de forcer l'écorce, la dureté du positif, de faire sauter les systèmes fermés grâce au marxisme. Mais pour affirmer de façon convaincante sa philosophie de l'espérance, en premier lieu, Bloch ne doit pas réfuter comme principal adversaire le Nietzsche de l'amor fati, mais plutôt les Sein zum Tode, lettre pour la mort de Heidegger, ou, plus en général, la pulsion de mort de nombreux intellectuels allemands avant la Première Guerre mondiale. Par conséquent, la riposte la plus dure à l'utopie, c'est-à-dire la mort. C'est justement contre cette dernière que sont nées pour Bloch toutes les bonnes nouvelles de la religion. Contre l'anti-utopie, Bloch recourt encore une fois à l'image du voyage, en se servant d'un exemple littéraire suggestif, un extrait de Keller, Gottfried Keller, dans lequel les cadavres d'un mort ressemblent à des émigrants qui attendent le matin en dormant sur leurs pauvres choses avant qu'on lève l'ancre. Benjamin déjà avait comparé la cathédrale de Marseille à un garde de chemin de fer où l'on se prépare pour le voyage. Mais ici, est souligné die Bereitschaft zum Nichts in dem kommenden Morgen. Être prêt pour le vide amicalement vaste du néant. Ce passage rappelle un célèbre aphorisme de Nietzsche sous les portes des Gênes, dans lequel le brouhaha et l'animation du port avant que le bateau ne lève l'ancre sont situés sous le fond sombre de l'océan qui atteint tout le monde avec son silence désolant. Cette certitude, toutefois, tout comme chez Pascal, ne semble avoir aucun pouvoir sur les hommes, et Nietzsche est né heureux. Les hommes ne veulent pas penser la pensée de la mort. Dans les deux textes, la mort, l'anti-utopie radicale, la réfutation suprême du principe espérance est transfigurée et presque rachetée par un halo de mystère. La clé se trouve justement dans l'image du sac de l'émigrant, les bagages que nous emportons avec nous. Déjà dans l'esprit de l'utopie, Bloch parlait d'un bagage antérieur avec lequel nous affrontons les flottes noires avec les voiles incertains. Ou, en citant Conrad Ferdinand Meyer, d'une braise allumée dans les cheminées après la chasse sauvage de la vie. Cet antérieur, nous l'emportons dans l'au-delà. Ses résonances et ses lueurs les remplissent. Quand tout meurt, il reste la fleur nocturne de la foi qui remplit de son odeur l'ultime obscurité, dit Bloch avec Jean-Paul Richter. Chez Bloch, il s'agit précisément d'une foi sécularisée, de la transcendance répandue sur terre. Peu après l'image des émigrants chez Keller, Bloch fait allusion à un voyage parmi les étoiles comme amplification du célèbre voyage gnostique et dantesque. La prière invocation à la grande ours pour qu'elle l'accompagne devient modèle d'un voyage utopique comme dissolution dans le cosmos et dans l'infini. L'étoile étoilée devient donc une sorte de promesse et de révélation immanente, comme dans les lettres harmoniques de Saint-Augustin, où quand le prince anglais est blessé dans guerre et paix. Mais sur terre aussi, il existe des révélations incessantes, surtout dans Trace, Spuren, 1930, Bloch semble avoir l'intention de découvrir un sens caché dans les choses. Advint nocturne et enchantement de la vie quotidienne, presque comme le poète italien Mario Luzi, l'illumination et les transcendances dans les petites choses. Le style philosophique de Bloch nourrie de littérature, donc allusive et riche en suggestions poétiques, vise à révéler la magie de la vie quotidienne, même grâce au langage des contes de fées ou du récit fantastique. C'est ainsi que dans le principe Espérance, Bloch encore une fois se réclame du réaliste qu'elle est et d'un personnage féminin qui, dans les romans Henri le Vert de Grüne Heinrich, vit au milieu des épaves de sa boutique de bric-à-brac en percevant puérilement la façon dont parlent les choses. Je cite le texte que vous avez à page 429. Tout prenait en sens à ses yeux et s'anima. Quand un rayon de soleil traversait un verre d'eau et faisait sur la table une tache de lumière, les sept couleurs qu'il y jouait étaient pour elle un reflet de cieux. Pour elle, tout était plein de signification et de vie. Si le soleil va dans un verre d'eau et de là sur la table brillant, les sept couleurs tremblantes étaient pour elle un reflet de magnificence du ciel. Maintenant, nous arrivons à Dante. Une vaste section de la quatrième partie du livre est consacrée aux toupies géographiques et aux différents paradis terrestres dont convoitiez dans l'Amanès, comme dans les passages d'Isaïe, qui désignait un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dans cette section, sont passés en revue les rêves millénaires et les constructions mentales les plus suggestives et les plus bizarres. Les mirages et les faits morgans qui constituent de toute façon des gros réservoirs d'images. Des îles de bienheureux aux lettres des prêtres Jean. Des paradis méridionaux, orientaux et nordiques, des îles non trouvées, des Eldorado, mais aussi les voyages dans les cosmos, dans les mers horizontales et les mers verticales. À partir des anciens mythes de la recherche de la toison d'or ou du Graal, les voyages par mer accompagnent toujours les utopies géographiques. La découverte du nouveau monde, d'Eldorado et des embarquements pour ces terres. Dans ce contexte se situent certaines légendes comme celle de la navigation de Saint-Brandin et l'histoire de l'île non trouvée. Même le poète italien Guido Gozzano en part. Où la chose la plus singulière est que ces récits on était pris au sérieux, au point d'organiser des expéditions non seulement au Moyen-Âge, mais aussi au XVIIIe siècle, pour arriver jusqu'à ces territoires créés par les désirs ou l'espérance. La revue de ces espaces édéniques travers la peinture, la musique, la philosophie, et les différentes utopies sociales. Un chapitre est consacré aux utopies architectoniques et spatiales, des pyramides aux symbologies complètes dans l'espace des églises gothiques et aux édifices de la Renaissance. Il s'agit d'un parcours ascendant qui traverse plusieurs territoires, les mythes de l'Antiquité, les religions, les journaux de voyages réels ou fantastiques, les paysages des arts figuratifs. Mais c'est surtout dans la peinture que cet espace idéal trouve ses représentations les plus suggestives. Par exemple, chez Raphaël ou chez Watteau, dans les citères déjà atteintes et dans les dimanches de la vie, rêvées et peintes par Claude Lorrain ou par Gauguin, qui semblent donner une forme tangible à l'instant parfait. Mais ici aussi, nous assistons à une progression. De la quiétude revint des paradis brunes et ardents aux utopies de la paix, qui donc ne sont plus rouées, mais Frieden. C'est justement dans l'espace bidimensionnel de Giotto que l'utopie de la paix trouve son expression. Dans cette hiérarchie rigoureuse, où chaque chose converge vers un centre et trouve la place que lui a réservée la foi. Dans cette peinture est affirmée la prépondérance de l'espace sur le temps, qui conduit au parallélisme avec le paradis de Dante. Vosselet, l'ami de Thomas Mann, avait déjà fait allusion, contre Croce, à l'importance du fait que Dante n'érige pas simplement un roman fantastique sur une base dogmatique, mais qu'il se met à parcourir les espaces et les cieux tournants de son édifice. Nietzsche même admirait la liberté et la souplesse extraordinaire de cette imagination à l'intérieur des chaînes dogmatiques. Chez Bloch, la comédie est insérée dans le contexte des utopies spatiales, dans les arts figuratifs. Et elle est liée et elle est lue en association avec les fonds suspendus et transfigurés des tableaux sacrés ou les espaces infinis de la peinture romantique. Il cite par exemple ceux de le peintre Caspar David Friedrich interprété par Kleist. Dans l'espace où s'élève la Madone Sistine de Raphaël, exaltée par tous les romantiques allemands jusqu'à Schopenhauer, et Nietzsche aussi, Bloch lit un singulier paradoxe. La Vierge s'élève tout en descendant, elle descend tout en montant. Son espace et celui de l'élèvement, mais aussi l'espace du retour chez soi. Bloch semble ici entrevoir la destination de la recherche du bonheur, que l'intérieur devient extérieur et que l'extérieur devient comme l'intérieur. Cet espace semble à Bloch analogue à l'espace comme forme d'œuvre représentée dans le paradis de Dante. Dans Experimentum Mundi, sa dernière œuvre, on part des rapports spéculaires de la structure littéraire avec la structure figurative et mythologique que l'on veut représenter. Dans les trois parties, nous avons, selon Bloch, un espace qui tombe à pic dans l'abîme, un espace ascendant du feu, purificateur, et enfin, l'espace choral de la quiétude. Ce dernier n'est pas tellement l'endroit où sont réunis les bienheureux, mais c'est lui qu'il forme avec la rose céleste, chantouante, qu'il définit la forme parfaite de la plénitude. Bloch entend par là se référer à l'espace utopique qui a comme centre la rose mystique où tout est à la fois proche et distant. Presso e lontano lì ne pone leva. Donc le sacre tout partout. Malgré les persistants différents hiérarchiques, il fait dire à d'une de l'âme autour de la rose, partout est paradis. La comédie semble donc l'utopie de l'espace la plus parfaite et la plus accomplie. Dans cet espace s'apaise la Sehnsucht, de même que les forces de Goethe, dans son livre Infini Streben, semble en revanche une utopie du temps, qui montre dans sa non-réalisation, au-delà des montagnes terrestres, un azur plus profond de la conscience utopique. L'utopie de l'espace rappelle l'arrêt messianique du temps et révèle des analogies avec les nonstances de Maître Eckhart et de la musique. Ce n'est pas un hasard si les pages sourdantes d'Experimentum Mundi se concluent par un paradoxe mystique déjà mentionné dans l'esprit de l'utopie, c'est que le ciel des cieux ne peut contenir se trouve maintenant dans les entrailles de Marie. Ce paradoxe indique une grande proximité, justement parce qu'elle se fait petite et dense, un espace mystique incurvé sous la concentration d'un intimum. L'expérience du temps qui s'arrête est un thème crucial non seulement dans les principes espérance, mais aussi dans les écrits consacrés au parallélisme entre les forces et la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Il s'agit de cet instant immense et des soudains silences ouverts par l'œuvre d'art et suggérés à Bloch aussi par la lecture de l'essai de Jean Lukács, L'âme et les formes, publié en 1910. Bloch partage la conception d'un temps discontinu et non homogène avec Benjamin, dont la jetzt le maintenant, englobe et retient des éclats du temps messianique. Dans la tradition de la mystique juive, l'instant était la petite porte par laquelle pouvait entrer le Messie. Dans les textes de la philosophie de l'histoire de Benjamin, on mentionne un temps qui a une intensité différente et qui s'ouvre à l'avenir. Aussi bien Bloch que Benjamin ont l'intention de rechercher des traces du futur dans le passé pour en rattacher les fragments comme l'ange des clés transporté par la tempête dans l'avenir mais qui tourne le dos à celui-ci. Bloch critique une idée de temps cloué à l'espace, rectiligne et unilatéral, un espace qui emballe les objets et les contemple au contraire comme quelque chose de vibrant, d'élastique, de dynamique, avec des centres rayonnants de puissance. Dans cette perspective acquiert une valeur d'anticipation, mais aussi de pousser en avant de l'histoire les œuvres du génie, qui qui, dans ce mélange singulier de marxisme et de théories freudiennes, ressemble à un réveil du sommeil enchanté de l'inconscience, l'illumination profonde du génie, soustrait au territoire de l'irrationnel, semble donc insérer dans un processus de transformation et d'accélération des temps historiques dans le rôle que Marx attribuait aux avant-gardes politiques, comme si, dans de tels moments, le temps se condensait et devenait l'heure d'avenir. L'écriture même de Bloch renvoie sans cesse à des chiffres, à des symboles, à des mythes et à des archétypes ouverts comme emblème de l'avenir. L'expression, la phrase est de Habermas. Il s'agit d'un avenir qu'il faut rechercher comme anticipation, même dans un passé non fermé hermétiquement. On rachète tous les passés, on les rattache à un mouvement en avant, en récupérant ce qui, dans le passé, fait appel à nous dans l'attente d'être réveillés. Am besten zurückgreifen, was auf uns vorgreift, dit Bloch. C'est ainsi que, dans cet horizon, la mystique juive et la mystique chrétienne nouent une singulière alliance afin d'alimenter les courants chauds du marxisme et de vaincre toute perspective scellée par le néant et la mort. Avec un singulier renversement dialectique des parties, la mort n'est pas contemplée dans la perspective nihiliste d'un abîme qui a tout englouti. Elle est vue, au contraire, comme ce qui réveille, par réaction, les atteintes utopiques de l'homme, ces mêmes atteintes qui ont convergé vers les mythes et les religions. C'est pour cela que la mort est engloutie, avec son néant, par la tension immanente de l'espérance. Merci à tous. Excuse-moi ça.